enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Cher pasteur Claude, je ne pensais jamais que ce serait moi un jour qui écrirais une lettre témoignage. Mais je me sens poussé de le faire. J'écris cette lettre en ce vendredi 31 juillet, reçue il y a quelques jours. Parce que je crois que dans les deux derniers dimanches, j'ai retrouvé le chemin du refuge et Dieu a sauvé mon mariage. Il y a 8 ans, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et ce qu'il a fait pour moi était un miracle. Il m'a pris du malheur, du désespoir où j'avais tout perdu. Il ne m'a pas seulement pardonné et guéri, il m'a béni avec une vie nouvelle, celle dont j'avais rêvé avant et avec une nouvelle épouse, 2 belles petites filles, et un travail extraordinaire que j'aime et qui me fait bien gagner ma vie. La semaine passée, j'ai vu que j'étais tombé dans la trappe du lion de l'orgueil. Depuis 1 an, je ne suis content de rien. Je veux toujours plus. Je chiale sur tout. J'ai commencé à m'éloigner de ma famille, à faire des affaires loin de Dieu pour de l'argent. Tout le monde fait ça. Pourquoi pas moi? On allait de chicane en chicane avec mon épouse. On criait devant les enfants qui pleuraient. Comment est-ce que j'ai pu être aveuglé et ne plus voir toute la bénédiction que Dieu m'avait donnée et la saboter comme ça? Le silence s'est installé entre moi et ma femme. J'étais jamais à la maison. Les tentations sont venues. Mon épouse pleurait tout le temps. Elle essayait de me parler d'un lion de l'orgueil. Je n'écoutais rien. Je m'endurcissais. Je m'enrage et je commence à me mentir, à lui mentir, n'importe quoi pour ne pas reconnaître qu'elle a raison. J'attaquais, je blâmais, je l'accusais, mais c'est moi qui avais tort, et dans le fond, je le savais. J'ai commencé à pas mal moins venir à l'église. C'est fou, pasteur Claude. J'étais dans une trappe et je ne le voyais pas. Dimanche passé, pendant votre prêche, j'avais des rages et des colères contre vous. Je voulais me lever et m'en aller. C'était vraiment la vie, la mort, un choix. Je me suis avancé en arrivant, et en arrivant en avant, dans la présence de Dieu, j'ai craqué. Comme ça m'a fait du bien. C'était comme si une grande eau me lavait. Quand ma femme est venue et qu'elle a commencé à prier pour moi, j'ai pleuré pour la première fois depuis tellement longtemps. Comme si ensemble, on allait écraser le lion. C'est vrai que c'est seulement proche de Dieu qu'on voit clair. À tous les soirs cette semaine, on a parlé et prié ensemble. J'ai parlé à mes 2 filles et je leur ai demandé pardon. C'est bon, la paix de Dieu. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je vais marcher droit. Je vous demande pardon, pasteur Claude, et surtout, je demande pardon à Dieu. Merci, Seigneur, pour la parole qui nous éclaire et qui nous ouvre les yeux. Merci pour le refuge qui, je le crois, a sauvé mon mariage. Avec l'aide de Dieu, je veux qu'à tous les 31 juillet, à chaque année, je me rappelle qui m'a délivré des filets qui étaient pour me détruire. C'est ça que je veux vivre toute ma vie et c'est ça que je veux faire connaître à mes enfants. Mon père m'a fait connaître l'alcool, la violence, mentir, sacrer, me battre, voler et toujours lâcher. Mais moi, je veux que mes filles grandissent dans le refuge. Est-ce qu'on peut dire amen et vraiment applaudir la puissance de la parole de Dieu? Applaudissez fort, c'est ce qu'on veut, que Dieu percute, touche les vies, une à la fois. Dans cette série de messages sur le refuge du Seigneur, nous regardons ensemble au psaume 91. On va lire le psaume 91 dans un instant. Et l'importance, alors que j'ai été tellement touché de lire cette lettre, et c'est ce que nous voulons voir, Dieu percuter des vies, la parole de Dieu changer des vies. Et alors que je méditais cette lettre dans les derniers jours et pendant toute la semaine, les paroles de ce monsieur qui disait, de ce frère qui est ici ce matin, qui disait, c'est ça que je veux communiquer, moi, à ma famille et reposant sur mon cœur cette pensée, l'importance non seulement de connaître le refuge, l'appel que nous avons à connaître le refuge, le désir de Dieu que chaque personne connaisse un refuge en lui, mais l'appel aussi à le communiquer. Et on ne sait pas qui est l'auteur, du psaume 91. C'est un psaume qui n'est pas identifié. La majorité des théologiens, à cause de la forme linguistique, les expressions utilisées et la syntaxe et le type de psaume, la plupart des théologiens s'entendent que c'est ou un psaume de David ou peut-être fort probablement un psaume de Moïse, parce que le psaume 90, qui le précède immédiatement, est un psaume identifié, un psaume de Moïse, et c'est un psaume de refuge, ayant comme thème le refuge, et ayant comme première parole ces mots magnifiques. Dans le psaume 90:1, « Prière de Moïse, homme de Dieu. » Et il dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Voulez-vous dire à voix haute avec moi, « de génération en génération. » Et c'est des paroles absolument touchantes pour moi, cette pensée, qu'avec tout ce qu'il était, avec tout ce qu'il avait accompli, avec l'immense et l'amplitude et la marque qu'il y avait sur la vie, l'ampleur des accomplissements que Moïse avait accompli, la seule chose qu'il dit pour se décrire et la seule chose qu'on dit de lui, quelle appellation magnifique, Moïse, homme de Dieu. Vous savez, il y a, lorsque nous sommes plus jeunes, en âge, et c'est bien, et à tous les âges, nous avons toutes sortes d'ambitions. Il y a beaucoup d'ambitions qui sont louables. Nous voulons réussir à l'école, on veut réussir dans nos études, on veut réussir dans la vie. On veut être quelqu'un, on veut être respecté. On a des rêves qui sont parfois même de matériel, de choses qu'on veut acquérir, d'un statut, de choses qu'on aimerait accomplir. On veut laisser sa marque. Il y a toutes sortes de rêves et d'ambitions qui sont bien, qui sont légitimes. Et bien franchement, pour quelqu'un comme moi, qui est dans le pastorat ou dans le ministère depuis 25 ans, lorsque nous débutons dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi plusieurs rêves. On peut avoir même des ambitions d'impact, des ambitions de bâtir. Nous rêvons d'être connus ou d'avoir bâti ceci ou d'avoir cet impact ou d'un aspect du ministère ou d'un autre. Mais je dois vous avouer qu'alors que les années passent, dans l'œuvre du Seigneur, il y a encore le cœur qui est plein de rêves pour des accomplissements. Mais il y en a un qui transcende tous les autres. La plus belle chose, la chose la plus importante, celle qui les dépasse toutes, c'est simplement que nous puissions, que je puisse être un homme de Dieu. Simplement que nous, que vous et moi puissions, qu'il puisse être dit de nous, voici quelqu'un qui marchait avec Dieu. Voici quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui était un homme, une femme de Dieu. Et il n'y a rien de plus grand. Et ça transcende tout cela, que ceux qui me connaissent, que ceux qui m'entourent, que ceux qui sont les plus près puissent se dire, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui marchait avec Dieu. Quelqu'un qui représentait Dieu. Quelqu'un. Et la question que l'Esprit de Dieu pose à chacun d'entre nous, à tous les papas et les mamans en particulier, mais à chacun d'entre nous, c'est est-ce que vos enfants peuvent vous regarder et dire, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est mon papa, ça c'est ma mère, c'est une femme de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Et ce besoin que nous avons de recevoir, de connaître le refuge, mais le besoin de le répandre, le besoin de le communiquer de génération en génération. Il y a dans notre monde et dans la psychologie moderne et dans une sensibilisation de toute notre société entière, dans l'éthos de notre société, il y a une compréhension de plus en plus grande de ce que la Bible enseignait depuis des millénaires, que chaque personne ici, mais en particulier les parents, nous avons une capacité d'influence sur nos enfants. Que les enfants voient, et ce qu'ils voient, ils font, et ce qu'ils font, ils deviennent. Que cette capacité-là, cette dualité-là, elle peut être pour le positif et elle peut être pour le négatif. Quelqu'un m'a envoyé un clip qu'on va regarder qui dure juste quelques secondes, mais qui joue en ce moment partout à travers l'Europe, et c'est un service commercial qui est un service public, et simplement les gouvernements qui essaient de sensibiliser les parents au fait, à l'impact que nous pouvons avoir une influence. Dans le clip, vous allez voir, c'est une influence qui est négative, mais que nous pouvons avoir une influence et que le refuge commence dans la maison et que nous pouvons, et alors qu'on regarde, que Dieu puisse inspirer nos cœurs, motiver, stimuler nos cœurs à dire, je veux pas seulement connaître le refuge, je veux communiquer Dieu comme un refuge de génération en génération.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Did you see it, Sergeant?
Go back where you came from!
Learn this way!
Go back where you came from!
Don't listen to me!
De génération en génération. Et si la violence, si le préjudice, si la malhonnêteté, si le mensonge, si parfois des habitudes débilitantes de toxicomanie ou d'alcoolisme se communiquent de génération en génération, nous sommes assis ici dans la présence de Dieu aujourd'hui avec une extraordinaire réalisation et le potentiel de savoir que la foi, que l'amour, que la compassion, que la justice, que le courage, que le pardon, ça aussi, ça se communique de génération en génération, que nous pouvons communiquer à une génération qui est devant nous, non seulement la réalité de Dieu, la route vers Dieu, mais communiquer aussi le refuge qui est en Dieu. Et j'espère que vous êtes avec moi, mais il y a quelque chose qui monte en moi ce matin. Seigneur, nous voulons te communiquer comme refuge de génération en génération. Et on a 3-4 générations dans ce lieu ce matin. Alors, est-ce qu'on peut applaudir le refuge de génération en génération? J'étais mis face à face cette semaine avec la beauté de que lorsque la foi est communiquée de génération en génération. J'étais avec Chantal et plusieurs personnes à l'Église Nouvelle-Vie, une membre pastorale qui était là cette semaine au service, à la funéraille, service chrétien qui a pris place à l'Église de l'Espoir ici, d'un homme de Dieu, il y avait 80 ans, qui est décédé, M. Élisée Beau, et il y a plusieurs membres de la famille, Marco Beau, qui sont ici, et ses filles viennent ici à l'Église Nouvelle-Vie, il y a plusieurs membres de la famille qui étaient là, c'était un pionnier, un père dans la foi, un homme qui a servi le Seigneur pendant toutes ces années, mais c'était vraiment touchant. Non seulement de voir tous les chrétiens qui étaient rassemblés de partout. Il y a plein de gens qui étaient là avec leurs enfants et leurs petits-enfants, que c'est le pasteur Beau qui les avait conduits au Seigneur. Mais c'était aussi touchant de parler avec sa fille et de parler avec sa petite-fille, de se retrouver à parler avec sa fille et qui disait à Chantal et moi qu'alors qu'elle est arrivée à l'hôpital, il y avait un préposé à l'hôpital qui était là. C'était les derniers jours et c'était dans une section de l'hôpital pour des gens qui ils terminent leur jour. Et un préposé qui lui a dit, vous savez, moi j'en ai vu des gens dans cette situation-là et votre père, il était différent. Votre père, il n'était pas comme les autres. Votre père, il avait une paix. Votre père, on voyait comme est-ce qu'il était content de vous voir, mais il se sentait, on voyait non seulement, on voyait qu'il était prêt et on voyait qu'il était en paix. Combien savez que le refuge ne fait pas seulement une différence dans la vie, le refuge va faire une différence dans la mort et dans l'éternité. Et quel témoignage des gens de l'hôpital qui s'arrêtent et qui le voient. Et c'est sa fille qui me le racontait. Et de parler par la suite à sa petite fille, une grande, belle grande jeune fille qui parlait avec Chantal et moi, et qui parlait et qui savait, connaissait le témoignage de son grand-père. Et elle racontait, disant, les dernières semaines, il était content de nous voir, mais on sentait que grand-papa était prêt, qu'il avait hâte d'aller voir le Seigneur. Et quel témoignage d'entendre, il a été lu, un témoignage de sa fille Annie. Et sa fille Annie, qui est membre avec son mari Bertrand, ici à l'Église Nouvelle-Vie, et qui est aux prises avec une violente maladie, la maladie de Lou Gehrig. Elle est prise avec cette maladie qui la paralyse depuis 7 ans maintenant, depuis les premiers symptômes de la maladie. Et dans cet état de physique si difficile, où elle pourrait être amère, où elle pourrait secouer le poing, où elle pourrait dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui arrive, on voit cette foi, cette paix, cette confiance en Dieu de génération en génération. Et elle a dicté un message, elle n'a pas pu le dire verbalement, mais elle a dicté un message qui a été lu à la funéraille où elle disait, Papa n'était pas très à l'aise de verbaliser ses émotions, mais peut-être par pudeur, mais il n'avait pas de difficulté à parler de l'amour de Jésus. Je sais que papa est maintenant avec le Seigneur, qu'il a retrouvé toute sa vigueur, qu'il est parfaitement heureux, qu'il danse dans le ciel avec une tambourine à la main en louant Dieu. Bien au-delà de ce qu'il a pu imaginer, toute sa vigueur lui est revenue. Les moments passés avec papa cette dernière année ont été nombreux et merveilleux. Nos derniers instants ont été dans la prière. Après avoir redit comment il était content de retrouver son Sauveur, papa nous a communiqué une force et une stabilité de caractère, mais elle dit, et surtout, une foi inébranlable dans l'amour de Jésus en toutes circonstances. Et c'est quelqu'un qui traverse une des pires épreuves qu'un être humain peut traverser, qui dit, mon Père, de génération en génération, m'a communiqué une foi en toutes circonstances l'amour de Jésus. Elle dit, quel précieux héritage! Et elle écrit, elle termine en disant, « Merci, papa, je t'aime, ta fille Annie Beau. » Et je sais qu'Annie, ne peut pas venir souvent aux réunions à cause de sa santé, reçoit chaque prédication, lui envoie chaque prédication. Alors ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête un instant et qu'on puisse applaudir et dire à cette famille que non seulement nous sommes avec eux, mais comme nous sommes inspirés, ils vont applaudir fort et lui communiquer votre amour. Et comme nous sommes inspirés d'un refuge qui est communiqué de génération en génération. Alors que nous regardons à notre psaume 91 cette semaine et dans notre prochain message pour le conclure, nous regardons ensemble, on va en lire quelques portions qui vont apparaître à l'écran. Le psaume 91 qui nous dit, « Celui qui habite, le verset 1, « Celui qui habite sous l'abri du Tout-Puissant, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te délivre du filet, des filets, des pièges, de l'oiseleur. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et je serai moi-même avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Dans les messages précédents, nous avons vu ensemble la révélation, le cœur du refuge et la raison et le combat du refuge. Pourquoi nous avons besoin du refuge en Dieu et trouver dans le verset 3 qui nous dit « Parce que c'est seulement dans le refuge que tu peux trouver celui qui te délivre des pièges de l'oiseleur. » Le mot « piège », le mot « mokesh » dans l'hébreu. On a découvert ensemble que ce psaume nous annonce que le refuge n'est pas une option. Que nous avons besoin d'être près de Dieu, de vivre à chaque jour dans cette proximité, dans ce refuge, parce qu'il y a un combat spirituel, parce que chacun d'entre nous faisons face à des pièges. Il y a un oiseleur, a trapper, il y a un ennemi, il y a ce qu'il y a de plus sombre qui est là pour nous amener, pour nous voler, pour nous dérober, pour faire avorter la vie de Dieu en nous, et qu'il y a des trappes de l'ennemi, et ces pièges-là, différent pour chaque personne, adapté à chaque personne, continuel, diabolique dans ce qu'il y a de plus satanique et de plus destructeur que ces pièges-là, le mot utilisé, le mot « mokesh », qui parle littéralement de ce qui est différent, attirant, personnalisé pour chaque personne, et le mot « mokesh » qui veut dire aussi littéralement qui va prendre contrôle de nos vies. Et le mot est vulgaire, c'est le mot « mokesh » veut dire littéralement dans l'hébreu « un anneau au nez » ou « le doigt dans le nez », ça avait une image. C'était une image lorsque un boucher, littéralement, prenait un animal et prenait contrôle de lui et contre son gré l'amenait à l'abattoir, ou un bourreau qui amenait un esclave à l'abattoir le tenait. Et c'est un rappel à chacun d'entre nous, à des chrétiens qui connaissent Dieu, à des gens qui extérieurement tout va bien, à des chrétiens qui se croient sophistiqués et connaissants des choses de Dieu, qui ont même enseigné la foi à d'autres, que sans le refuge de Dieu, il est possible pour nous de tomber dans des filets, tomber dans des pièges où, pour prendre l'expression moderne, l'expression, elle le mener par le bout du nez. Or, ça vient de là, hors de contrôle, où le désir des ténèbres est de créer des zones de captivité dans ma vie, des zones où c'est l'ennemi qui m'amène où il veut m'amener. Mais Dieu dit à chacun d'entre nous, je connais les pièges, je connais les trappes et je te donne l'antidote afin que tu puisses marcher, que tu puisses vaincre à chaque jour, que tu puisses avoir autorité sur le lion, sur la vipère, sur le lionceau et sur le dragon. Il y a dans le refuge une protection et une puissance contre les pièges. Risquez amen si vous le croyez. Et il y avait quatre pièges dans un seul verset, le verset 13. On voit ensemble, on a vu ensemble et nous voyons ensemble quatre trappes. Quatre pièges, quatre filets de l'ennemi qui sont destructeurs et qui peuvent nous amener à la destruction. Et le désir de Dieu que nous puissions connaître, le désir de Dieu que nous soyons alertes, le désir de Dieu que nous soyons, ça fait partie de l'héritage de Dieu. Ça fait partie, c'est déjà dans votre compte de banque spirituelle. Et Dieu dit, c'est déjà là, c'est déposé pour toi. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque jour, tu viennes faire un retrait et qu'à chaque jour, tu puisses être rempli de ma sagesse, que tu sois alerte, que tu sois sobre, que tu sois éveillé au combat. 2 Corinthiens, chapitre 2 dit, « Afin de laisser notre ennemi aucun avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. » Et le mot « dessein », le mot en grec « noéman » de Noéo qui veut dire « on n'est pas ignorant de ses pensées, de ses intentions, de ses pièges ». Je dirais de cette façon, il n'y a pas de destinée sans discernement. Une des plus grandes, je n'ai pas eu d'amen, mais je vais continuer un petit bout du sol parce que c'est vraiment bon ce matin. Une des choses que bien peu de chrétiens prient, mais qui est une des choses les plus importantes, c'est le discernement. Il n'y a pas de destinée sans un discernement où je discerne comment l'ennemi fonctionne et comment il peut détruire. Il n'y a pas de surnaturel sans sagesse. Tu ne pourras pas accomplir si tu n'es pas alerte. Et la victoire est à celui qui veille. C'est la connaissance des pièges sataniques qui permettra conquête, percée et succès spirituel. Et dans le psaume 89, Dieu nous donne une promesse extraordinaire que ceux qui marchent dans le refuge vont être alertes, qu'ils vont voir, qu'ils vont être éclairés. Et il le dit littéralement, qu'ils vont être éveillés au combat, que ceux qui sont assoupis vont être réveillés. Le désir de Dieu, c'est qu'à chaque jour, il nous éveille, il nous illumine, il met une lumière sur ce qui pourrait être caché et que tu vois clairement l'ennemi pour ce qu'il est, les pièges pour ce qu'ils sont. Psaume 89, versets 14 à 23, « Seigneur, tu es un puissant refuge. » Ton bras est puissant quand tu nous soutiens. Et quel passage magnifique, quelle pensée magnifique, écoutez-la bien. Heureux est le peuple qui connaît le son de la trompette. J'aimerais vous dire que la trompette a réveillé Pasteur Luc Poirier dans la première rangée. Il a fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'est à quelqu'un qui dort encore, je vous donne la permission de lui donner un coup de coude nouvelle vie et de lui dire « Réveille-toi, la trompette vient de sonner. » Dis ça à quelqu'un près de vous. Le désir heureux, celui qui connaîtra le son de la trompette. Heureux, celui, quel passage magnifique. Il se réjouit sans cesse de ton nom, que lorsque tu connais le nom de Dieu, qu'il est ton refuge, tu renouvelles toujours notre force, toi, notre bouclier. Il dit, celui qui connaît le son de la trompette, la diapodice, il marche à la clarté de la lumière de ta face, ô Éternel. Et le désir de Dieu, c'est qu'à chaque jour dans ta vie, il y a une trompette qui te réveille le matin, qui te rend alerte aux pièges qui peuvent être là, et que la face de Dieu illumine la situation. Il n'y a pas de zone de ténèbres, il n'y a pas de zone où tu t'es fait prendre. Le désir de Dieu n'est pas cette vie où tu es dans le filet, tu es dans le moqueche, tu es comme l'insecte pris dans la toile, et plus tu bouges, plus tu te prends. Et après, que par la grâce de Dieu, il t'en sort, tu replonges les deux à pleine face dedans à chaque fois. Non, Dieu dit, il y a un héritage pour mon enfant, j'aimerais le réveiller avec ma trompette à chaque jour. J'aimerais faire briller ma face sur lui. Il dit même, voici mon serviteur, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. Tu ne seras pas surpris par l'ennemi. Du début de ta vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les tentations, l'héritage de Dieu, c'est qu'à chaque jour, je ne suis pas surpris, car je connais le nom du Seigneur. Et par le nom, ma force augmentera par la connaissance du nom du Seigneur dans ma vie. Alors, dans le texte, il y a quatre trappes. très clair qu'on a quatre pièges. On en a regardé deux la semaine dernière, un cette semaine et un dans le prochain message. La raison, le combat du refuge, les quatre pièges du psaume 91, encore si destructeurs aujourd'hui que nous allons exposer et vaincre ensemble. Le quatre mots qui représentent quatre attaques, quatre tentations, quatre pièges, quatre filets. Le lion, le piège satanique, tu marcheras sur le lion. Le piège satanique, le piège de l'orgueil. La semaine dernière, on a vu la vipère, le piège sournois de ce qui est soudain. Et si le lion est le piège de l'orgueil, la vipère, c'est le piège de l'oubli, qui veut te faire oublier la fidélité et la grâce et la grandeur de Dieu à cause d'une attaque soudaine. Et ce matin, nous allons voir ensemble le troisième piège que nous appelons le lionceau, le piège de la séduction, de ce qui semble petit, le piège de l'ouverture, le piège où tu ouvres ta vie. Ouvre ta vie à des choses qui te semblent petites, qui ne te semblent pas de grande signification, mais qui peuvent et qui vont te détruire. Le lionceau, le piège de la séduction, c'est ce qui semble petit, le piège de l'ouverture. Le psaume 91 dit « Tu marcheras sur le lionceau ». Et le psaume 35 dit « Seigneur, tu vois cela, protège mon âme contre les morsures, protège ma vie contre les lionceaux, afin que je puisse continuer à te célébrer et à t'adorer au milieu d'un peuple très nombreux. » Peut-être que vous n'avez jamais prié ça avant, mais je prie qu'après cette série de messages, après ce message ce matin, que ça devienne une prière, que des milliers de personnes de Nouvelle Vie, dans leur lieu secret à chaque jour, en route vers le travail ou à la maison, de dire « Seigneur, aujourd'hui, dans cette journée, protège-moi contre les morsures du lionceau, parce que moi, je veux continuer à célébrer ta bonté dans ta maison. » Lorsqu'on parle de cette dimension-là, du lionceau, qu'on va expliquer dans un instant, je souriais lorsque j'ai quelqu'un. Les gens m'envoient toutes sortes de clips. Et sur Internet, il y a toutes sortes de choses maintenant, des bonnes choses. Mais il y a aussi. L'Internet a fait découvrir toutes sortes de gens assez spéciaux. Puis il y a un gars sur Internet qui est vraiment tout un personnage. Il s'appelle Kevin Richardson. Il vit en Afrique du Sud. Et il y a tout un site Internet, ça s'appelle L'homme qui joue avec les lions. Kevin Richardson, je vous le dis entre vous et moi, puis si vous êtes de sa famille, là, je ne veux pas vous offenser, mais Kevin Richardson, selon moi, il ne va pas bien. C'est beau d'avoir une passion, mais lui, depuis 20 ans, il vit avec des lions. C'est l'homme qui joue avec les lions. Il vit sur une réserve spéciale, il passe ses journées, il dort, et il y a un vêtement qui est couleur de lion. Si vous voyez les cheveux, il y a des cheveux comme un lion. Et il dit avec fierté, « Moi, je sens le lion. » Il dit, une des choses qu'il dit qui est assez étrange, c'est qu'il dit, si je me lavais avec du savon humain, les lions ne m'accepteraient plus. Alors, je suis content de sentir le lion. Il joue avec des lions, il passe ses journées avec eux. Et Kevin dit avoir deux problèmes majeurs dans la vie. Le premier, il n'est pas capable de se trouver une femme. D'or! C'est beau le fauve, là, mais à petite dose, hein? Et le deuxième problème, c'est que j'ai beaucoup de misère à garder mes assistants. Il y a des gens qui viennent pour faire des stages avec Kevin, mais de la misère à garder, il y a des problèmes de staff. Des problèmes, il y a un roulement dans son staff. Puis il dit pourquoi? Parce qu'il dit les gens, ils viennent et puis ils se font blesser. Ils jouent avec les lions, ils se font couper, ils se font blesser. Puis il dit même, il y en a. Puis il dit, moi, je ne sais pas. Je ne sais jamais quand est-ce que ça va être ma dernière journée, etc., etc. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que Kevin dit, sur son site, il dit, une des choses que je dis à tous mes assistants, mais ils ne me croient pas, c'est que les plus dangereux, c'est les lionceaux. Tout le monde, les lions, savent comment les approcher. Font attention parce que le lion, tu le vois, il est gros, il est féroce, tu vois ses pattes, tu vois ses griffes, tu vois ses dents, tu vois ses crocs. Mais il dit, c'est toujours avec des lionceaux que les gens se font blesser. Le lionceau qui a l'air d'un timatou, le lionceau qui a l'air d'un gros chat, le lionceau que tu penses que tu peux jouer avec, le lionceau que tu te mets à jouer avec, et tout à coup, tu arraches un œil. Le lionceau, tu marcheras sur le lionceau, et le psaume 35 dit, « Seigneur, tu vois toi, et garde-moi des morsures du lionceau, parce que moi, je veux continuer à demeurer dans ta maison. » Et suivez-moi bien, spirituellement, le lionceau représente des choses qui nous semblent petites, des choses que tu penses que tu peux contrôler, mais qui peuvent te détruire. Ça représente des choses que, peut-être que lorsque tu es venu au Seigneur, tu avais laissé complètement, mais maintenant tu es capable d'en prendre un petit peu. C'est moins pire qu'avant. Mais avant, ça m'aurait détruit. Ça représente la personne qui est ici et qui avait des habitudes, que ce soit l'alcool, que ce soit autre chose, qui vous a presque tué. Et Dieu vous en a libéré extraordinairement. Et maintenant, les années passent et tu penses que tu peux commencer à rejouer avec le lion, parce que je suis capable de le tenir à sa place. représente le lionceau, représente des choses qui, que nous considérons qu'en comparaison avec d'autres sont moins graves. Un petit peu de fraude, un petit peu de travail en dessous de la table, un petit peu de travail malhonnête, un petit peu de vol, un petit peu de mensonge, un petit peu d'amertume, un petit peu de critique, un petit peu de moments où je laisse mes colères, mes frustrations, mes emportements me faire des choses, dire des affaires, faire des actions terribles. Un petit peu de choses avec la souillure, avec l'immoralité, avec des relations qui sont inappropriées. Un petit peu, mais je peux la... C'est la phrase, c'est là que tous les pasteurs ont entendu. Je pourrais l'arrêter n'importe quand. Je représente des choses, un lionceau que tu penses que tu peux jouer avec, que tu penses que tu peux l'arrêter, que tu penses que tu peux le contrôler. Que hier, je semblais être capable d'encore le tenir, puis ça ne me détruisait pas, de le remettre à sa place. Et aujourd'hui, dans mon relâchement, alors que le lionceau prend de l'ampleur dans ma vie, il m'arrache un œil, il me détruit. Le lionceau qui vient mordre ma vie. Ça représente un avertissement à chaque croyant, un appel à chaque croyant. Quel que soit le nombre d'années que tu marches avec Dieu, à dire, Seigneur, à chaque jour, j'ai besoin d'être ça, parce que croyez-moi, la plupart des grandes destinées, la plupart des appels, la plupart des choses qui sont ruinées par la main de l'ennemi, le sont souvent, après 25 ans de ministère, le sont souvent par des affaires que quelqu'un avait permis dans sa vie en pensant que c'est pas si pire que ça comparé à d'autres choses. C'est un petit lionceau que je suis capable de contrôler, je suis capable de tenir. Et le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, la Bible enseigne beaucoup là-dessus, mais le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, nous donne quatre figures, quatre symboles, quatre mots, quatre choses, quatre éléments, quatre exemples, incluant le lionceau, quatre exemples de choses qui, comment que les plus grandes destinées peuvent être détruites par ce qui est le plus petit. Et c'est j'appellerais ça une fable prophétique moderne. Et vous savez, comme les fables de La Fontaine, ils font ce genre de titre-là. Le titre de ma fable prophétique moderne pourrait être « La mouche, les petits renards, la brèche dans la muraille et le lionceau ». Il y a beaucoup d'entre vous qui me regardent en ce moment et vous ne saviez même pas que c'était dans la Bible. Vous devriez lire la Bible, c'est merveilleux. Et ça, c'est dans l'Ecclésiaste. Et l'homme le plus sage de la terre, celui qui n'a pas écouté ses propres conseils, celui qui s'est détruit lui-même par des lionceaux, par des choses qu'il a permis d'entrer dans sa vie après avoir été l'Eshomia, l'homme avec la sagesse, le cœur, l'oreille sur le cœur de Dieu. Salomon, dans la douleur de la fin de sa vie, a écrit, il y a des choses qui semblent petites, mais elles peuvent te détruire. Il y a, la fable dit, la petite mouche, il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit, une seule petite mouche va ruiner toute l'onction au complet. Et lorsqu'il y avait la préparation de l'huile d'onction, il disait, s'il y a une seule mouche, et laissez-moi vous dire qu'il y a des onctions de destinée et des appels qui sont ruinés dans le lieu secret par des choses qui nous semblaient petites à nous, que nous tolérons, que nous permettons, qui sont là. Et les plus grandes choses, la vie chrétienne n'est pas ces choses hollywoodiennes où tout est clair, c'est le moment, c'est le gros ennemi, tu le vois, tout le monde le voit, puis ça va être là que ça va se passer. Le roi David a abattu le géant que tout le monde voyait. C'est dans le lieu secret lorsqu'il y a eu affaire à un lionceau qui a été dévoré. Est-ce que vous me suivez? Alors, il y a l'Ecclésiaste dit de cette façon, c'est assez saisissant, il dit toute l'onction complète est ruinée. Ça prenait des mois de préparation, il y avait toute une préparation selon le plan de Dieu pour l'huile d'onction qui représentait l'action de l'Esprit sur quelqu'un. Et c'était très pratique, il disait, s'il y a une seule mouche dedans, tu la jettes au complet parce qu'une seule mouche ruine toute l'huile. Et vous devriez comprendre cette analogie-là d'une manière très simple, si on parle, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui travaillons à passer des mois à préparer une huile d'onction. Laissez-moi vous donner un exemple plus près de nous. Vous avez amené votre épouse ou votre époux, vous allez dans un beau restaurant, vous allez une coche plus que d'habitude, vous allez dans un restaurant plus cher, vous avez moyen, mais une fois de temps en temps, et vous arrivez là, et c'est chic, et tout est magnifique. Et lorsque vous vous asseyez, le super serveur arrive, tout poli, tout brillant, et il arrive, et puis il met sur la table un super gros, les gros bols, et il y a une magnifique, immense bol de soupe. Et lorsque vous venez pour plonger dedans, en plein milieu de votre soupe, une mouche, une grosse, vous savez, avec un centimètre entre les deux yeux, une grosse, puis elle est là, puis elle nage dans votre soupe, fait le back crawl dans votre soupe. Et vous dites au gars, regarde-moi, change-moi ça, enlève ça de là, il y a une mouche dans ma soupe, et le serveur dit, voyons donc, monsieur, voyons donc, madame, une si petite mouche, un si grand bol de soupe, combien sont d'accord qu'une seule mouche ruine la soupe? Dites oui. Deuxième analogie, il dit, une seule petite mouche ruine toute l'onction. Ecclésiaste dit aussi, les petits renards dévorent le fruit de la vigne. Et c'est une image d'un vigneron. Le Seigneur est le vigneron et nous sommes ses vignes. Du vigneron qui regarde, il regarde à son champ de vignes Et alors qu'il est allé de près et qu'il a été attentif, les bourgeons venaient. Le potentiel d'un chrétien commence à porter des beaux fruits. Puis il y a des bourgeons qui annoncent que ça va être extraordinaire ce qui va couler. Il va avoir un fruit merveilleux. Mais si le vigneron n'est pas alerte, si le vigneron commence à suivre de loin, l'histoire nous dit que les petits et ceux qui connaissaient ces domaines-là à l'époque où les textes ont été écrits, les petits renards pouvaient entrer de nuit dans la vigne, des milliers de petits renards que tu ne voyais pas à l'œil nu. Et ce que les petits renards faisaient, ils ne venaient pas détruire les vignes. Tu ne te levais pas le matin et toutes les vignes étaient à terre, puis tu t'es aperçu que les renards étaient venus. Les petits renards venaient, ils dévoraient le fruit, puis ils laissaient le feuillage. Et c'est ce que l'ennemi fait. Pour faire ses œuvres les plus dévastatrices, il vient de voler le fruit. Si tu le laisses faire, ça semble si petit. Les renards étaient longs comme ça. Petit renard qui vient dévoiler le fruit, puis il te laisse juste le feuillage. Tu as toute l'apparence chrétienne, tu continues à venir, tu continues à faire l'extérieur, tu continues à faire tout ce qui est extérieur, mais petit à petit, par des choses que tu as laissées entrer dans ta vie, il est en train de te voler le fruit. Il est en train de te voler la paix, il est en train de te voler la joie, il est en train de te voler ton futur, il est en train de te voler ta destinée. Une seule mouche vient de détruire toute l'onction. Et combien de personnes dans ce lieu ce matin, je prie que Dieu nous donne onction dans ce moment. Pas seulement pour vous, mais tous ceux qui vont entendre le message par Internet, tous ceux qui vont l'entendre. Il y a une destinée tellement extraordinaire pour toi. Et les petits renards sont venus. Il y a une mouche en ce moment qui menace de ruiner ton onction et ta vie. Et il y a petit à petit des petits renards que tu as laissé rentrer. Et Dieu t'y montre en ce moment. Dieu te les montre en ce moment. J'espère que vous êtes avec moi. Je ne veux pas une vie chrétienne avec du feuillage sans fruit. Je veux le fruit de sa vie et de sa force et de son esprit en moi. Quelqu'un devrait dire oui. Une mouche ruine l'huile. Petite mouche ruine toute l'huile. Petit renard vient voler le fruit et il dit, Ecclésiaste, une seule brèche dans le mur et le serpent entre et dévore. Une seule brèche, une seule faille dans le mur permet au serpent d'entrer et de détruire. Il y a plusieurs années, je suis allé, et sa fille était ici ce matin à la première réunion, Naomi, il y a plusieurs années, je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire un voyage missionnaire. Et c'était un voyage extrêmement long en classe économique avec un Montréal, Madrid, et Madrid, un pays africain, je suis en Côte d'Ivoire, presque 48 heures sans dormir, en économie, en arrière, où ils te lancent les peanuts et il y a un coke avec de la glace une fois de temps en temps, puis t'es pris dedans. Et j'ai pas été capable. Puis tu dors pas. Ça 48 heures, j'avais pas dormi. Et je vais vous faire une confession. Moi, je suis capable d'être long. Je suis capable de faire des bons bouts sans dormir. Puis je suis capable de bien me contrôler. Mais à un moment donné, quand je suis vraiment fatigué, moi, je suis trop fatigué sans sommeil. À un moment donné, je viens comme, impatient, là, mais impatience, comme vous suivez. Je viens juste un peu sur le nerf. Dans ce cas, je le sais, je me connais maintenant. Fait qu'il faut juste. Laissez-moi aller dormir, puis je vais être correct demain matin. J'ai juste besoin de quelques heures. Faut que je dorme. Et là, on sort de l'avion, on arrive à l'aéroport, 4 heures d'attente à l'aéroport, après à peu près 48 heures sans dormir, et là, le niveau, et les personnes qui étaient supposées venir nous chercher sont pas là, puis il y a tout un niveau d'impatience qui monte et qui monte et qui monte. Et finalement, le missionnaire arrive, on arrive, il est rendu à peu près 1 heure du matin, on est assis là, on a ses yeux tous rouges, on a les valises en dessous des yeux, un set de valises en dessous des yeux, puis on est assis là, et alors qu'on est fatigué, il y a un repas qui nous attend, il y a des gens, on rencontre des gens, puis je veux juste aller dormir. Et lorsqu'on vient pour partir, on reste pour aller se coucher finalement, à côté de la maison du missionnaire, il y a un petit guest house, une chambre d'invité. C'est là qu'on s'en allait dormir. Tu traverses sa cour, puis là, je voyais la petite chambre d'invité, puis j'avais juste hâte d'y aller. Puis je commence à marcher, puis le missionnaire, il marche en arrière de moi, puis il commence à me pousser. Il dit, ah ouais, marche plus vite. Vas-y, allez, dépêche-toi. Puis c'est niaiseux quand t'es fatigué, les affaires qui n'ont pas de sens, qui te commencent à me pousser, puis je me suis dit, donc, est-ce qu'il va me pousser? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai commencé à m'offenser qu'il me poussait. Est-ce qu'il me poussait? Là, tu me pousses, j'attendais depuis 3 heures à l'aéroport. Et puis, là, je me suis couché en me disant, franchement, traverser le monde pour arriver ici, de me faire pousser, là, tu sais. Il a juste, vous me regardez comme si c'était juste moi qui ai ces moments-là, mais c'est pharisien. Et le lendemain, c'est moi qui ai dit ça? Le lendemain matin, on déjeune ensemble. J'avais dormi, j'étais correct, j'étais revenu à la normale. Et on est en train de déjeuner, puis le missionnaire est en train de déjeuner, puis il me dit, « Tu t'es peut-être demandé pourquoi je t'ai poussé pendant le... » Non, gloire à Dieu, tout va bien, on est des frères. Ben, il dit, c'est parce que, il dit, « Je demande pardon, je ne vais pas être impoli, mais c'est pour ta sécurité, c'est parce qu'il dit, on a une brèche dans le mur. » Puis il dit, « Depuis des semaines, les serpents entrent. » Puis il dit, « Il y a des serpents qui sont entrés, puis il dit, un de mes gardes qui s'est fait... » Il s'est fait mordre et puis en juste quelques minutes, il était paralysé. Il y a des serpents meurtriers, on n'a pas les moyens de réparer. Il dit, ma clôture est correcte, mais j'ai quelques brèches qui permettent aux serpents d'entrer. Est-ce, premièrement, dans ce moment, vous dites ce qui s'est passé. Premièrement, pour le reste du voyage, j'étais là presque un mois, je couchais là tous les soirs. Pour le reste du voyage, j'ai battu des records de sauts en longueur. Je ne touchais pas au gazon, je sautais et j'atterrissais dans... Et lorsqu'on est revenu, la première affaire qu'on a faite, c'est prendre une offrande pour réparer sa clôture. Est-ce que vous comprenez que c'est ce que plusieurs chrétiens disent? Oh, maman, il y a beaucoup de parties de mon mur qui est correct. Il y a beaucoup de parties de ma muraille qui est correct. Mon mur est bien moins pire qu'avant. Il y a bien des places où je suis quand même un bon Jack. Mais si tu laisses une faille, si tu laisses une seule faille, tu laisses une place dans ta vie, tu ouvres ta vie, tu laisses une porte ouverte à ton ennemi, une seule faille, une petite faille, et le serpent peut entrer. Je dis ce matin, fermons la porte à celui qui veut détruire et qu'on puisse protéger nos appels devant Dieu. Seule petite mouche et toute l'huile est ruinée. Un petit renard dévore le fruit. La petite brèche dans la muraille, le serpent entre et tue. Et l'Ecclésiaste nous dit, les petits lionceaux qui vont venir t'arracher la vie. Il y a des conditions dans nos vies, selon la parole de Dieu, des décisions qu'on prend qui nous rendent vulnérables aux petits lions, qui nous rendent vulnérables à des choses qui vont commencer petites et qui font une œuvre pour nous détruire. Et Jérémie, chapitre 2, a dit, c'est le Seigneur qui parle, qui nous connaît tellement bien. Il dit, car mon peuple a doublement mal agi. Jérémie 2, 13 à 15, la diapo 15. Car mon peuple a doublement mal agi. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour boire à des citernes d'eau corrompue. Mon peuple, et là, tu as toute la douleur de Dieu, tu as tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et sa douleur à nous voir le négliger ainsi et préparer le terrain pour notre destruction par le lionceau. Il dit, mon peuple est né dans ma maison. Il n'est pas un esclave. Mais il est maintenant au pillage et le lionceau rugit contre lui. Voici ce qui arrive dans la vie des chrétiens la plupart du temps, qui succombent tout à coup à un lionceau. Il y a eu une négligence. Le Seigneur a dit, ils ont fait deux choses. Ils ont commencé à m'abandonner, moi, la source d'eau vive. Ils ont commencé à m'abandonner, la prière, abandonner ma présence. Parce que tu m'invoques, je te protégerai. Parce que tu t'attaches à moi, dit le psaume 91, je te délivrerai et je te garderai, je te protégerai. Parce que tu connais mon nom, ainsi je serai avec toi dans ton épreuve et je te libérerai, je te consolerai, je serai avec toi, je te délivrerai du filet de l'oiseleur. Et le Seigneur dit, regarde ce qui est arrivé à mon peuple. Ils ont commencé par abandonner la source d'eau vive et après ça, ils ont commencé à se donner à des sources corrompues. Commencer à se donner à des choses inutiles, à des choses de la chair, à des choses que tu ne te permettrais jamais avant. Et dans cet état-là, lorsque tu petit à petit négliges de te nourrir et de t'abreuver en Dieu, et que tu entres dans cette dimension, tu commences à repatauger dans les marais de ce que tu avais laissé avant à des choses, tu commences à retoucher à plein de ces choses-là, à te donner à des citernes d'eau corrompue et dangereuse. Il dit, des personnes qui sont nées surnaturellement dans ma maison, des personnes que j'avais sorties de l'esclavage, sont maintenant au pillage, et il y a un lionceau qui rugit contre lui. Il faut comprendre que c'est un combat qui est continuel. Ézéchiel, chapitre 19, dit « Voici la lionne. Elle a dressé le lionceau qui est devenu un lion et a appris à déchirer sa proie et dévorer des hommes. Et des hommes furent pris dans leur trappe, dans leur piège, dans leur mokesh, avec une boucle à leur narine. Ils furent amenés comme des esclaves en captivité. Et quand la lionne vit qu'elle attendait en vain et que son espoir de destruction s'évanouissait, elle a pris un autre lionceau qui a pris sa trace au milieu des lions et a appris à déchirer sa proie. » Et attendre d'autres filets. Ce que ça dit à chacun d'entre nous, c'est que le combat n'arrêtera jamais. Écoute-moi, il y a des choses qui étaient un lionceau pour toi lorsque tu étais dans ta première année de vie chrétienne, ce n'est plus cela aujourd'hui. Mais après un an, après cinq ans, quelle image hallucinante du lionceau qui littéralement, qui est formé pour aller attaquer. Lorsqu'il trouve une faille, il attaque et il déchire. Mais là, ce genre d'attaque-là ne fonctionne plus. Alors un autre lionceau s'élève et il suit sa trace de destruction. Il va trouver un autre endroit. J'aimerais dire, ce matin, à la première réunion, il y avait un jeune qui était ici dans la première rangée de quelques années de vie chrétienne, à peine un an ou deux de vie chrétienne. Puis avant en arrière, M. Desmarais, qui a 60 ans de vie chrétienne. J'aimerais vous dire que de quelques mois avec Dieu, à 50, 60 ans avec Dieu, le le combat n'arrêtera jamais. J'ai besoin à chaque jour de me lever et non seulement le combat, la grâce de Dieu, l'éclairement de Dieu, la protection de Dieu, elle non plus ne tarira jamais si je suis prêt à aller m'en emparer. Je vais terminer alors que les musiciens s'approchent en vous disant qu'il y a, lorsque je regarde l'œuvre destructive du lionceau et toutes les possibilités en Dieu d'en être protégé, il y a une douleur dans mon cœur de berger qui vous appelle à une décision. Je termine avec ceci. Lorsque j'ai lu ces mots dans Zacharie à propos du lionceau, tu lis quelque chose dans la Bible qui a été écrit il y a des millénaires et qui représente d'une manière hallucinante quelque chose que j'ai vécu depuis 25 ans de ministère, bien des fois, avec douceur, avec amour, avec tendresse, mais aussi avec une farouche détermination que l'Esprit de Dieu touche votre cœur ce matin. Il y a une douleur dans mon cœur qui vous appelle à une décision. C'est très vivide la façon dont Zacharie l'a écrit. Il dit, le feu a dévoré. Les brebis marchent vers l'abattoir. Les arbres qui étaient magnifiques sont ravagés et n'ont plus de fruits. Voici, on entend une image de superposition. En même temps, on entend le cri de douleur des bergers, les hurlements de peine des bergers, en même temps que le rugissement de victoire des lionceaux au-dessus de leur proie. Il n'y a pas un pasteur qui est là depuis quelques années qui ne vit pas cette dualité. Parce que je regarde à l'Assemblée ce matin après 16 ans, la semaine prochaine, la prochaine semaine, 16 ans de vie, nouvelle vie, et milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur ici, qui sont revenues à Dieu ici, qui ont appris à vaincre le lion et la vipère, et le lionceau et le dragon, et leur vie est une vie d'épanouissement et de bénédiction. Pas des vies parfaites, mais des vies où s'accrochent à Dieu et marchent avec Dieu. Et ça, c'est la source de joie. Ça serait mensonge, ça serait futilité, ça serait chimère et malhonnête de ne pas vous dire qu'il y a aussi, pour prendre l'expression de Zacharie, dans nos lieux secrets avec Dieu, parfois, il y a un hurlement de douleur dans nos cœurs. De voir des personnes qui avaient été des arbres magnifiques, des couples qui avaient été magnifiques, des appels devant Dieu qui avaient été magnifiques, des guérisons qui avaient été magnifiques, des potentiels, des serviteurs pour Dieu qui avaient été magnifiques, être déchirés. Et il y a encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, si on écoute avec l'oreille de l'Esprit, il y a ce cri qui se mélange. Il y a les deux cris en simultané d'un berger qui a les mains devant Dieu, qui pleure, qui hurle sa peine de voir la destruction et de voir une personne de plus succomber au lionceau. Et le cri des bergers qui se mélange avec le mugissement du lionceau qui est satisfait d'avoir détruit une proie de plus. Alors, cette douleur dans mon cœur vous appelle à une sérieuse décision. Et la question que je vous pose, c'est jusqu'à quel point êtes-vous sérieux? Jusqu'à quel point êtes-vous sérieux pour arrêter l'œuvre du lionceau ici, dans ce lieu, ce matin? C'est-à-dire, je ne serai pas un de plus. Parce que s'il y a ce portrait d'un berger qui pleure, et le berger ultime, c'est Dieu lui-même, hurlant sa peine alors qu'un lionceau dévore une famille de plus, un couple de plus, une proie de plus, un appel de plus, une personne de plus qui a commencé avec quelque chose de petit et qui en a été dévoré. Mais l'autre image, et celle-là, c'est le dernier verset de l'avant-midi, c'est le cœur de Dieu. Il y a une douleur, mais elle vous appelle à une décision. Parce que Job, chapitre 4, verset 6, dit ceci, « Les lionceaux, les jeunes fauves périssent par le souffle de Dieu. » Quelqu'un devrait dire « Amen ». Les lionceaux périssent par le souffle de Dieu. Et la crainte de Dieu est ton soutien. Ton espérance est dans l'intégrité de tes voies. Et le lionceau se disperse, car il n'a plus de proie. Par le souffle de Dieu, les lionceaux se dispersent. Si tu t'attaches à moi, je te protégerai. Si tu m'invoques, si tu vis ta vie, nouma, le souffle, représentant l'Esprit de Dieu. Si tu vis ta vie sous le souffle de Dieu, l'ennemi va approcher, mais il ne trouve, le lionceau va se disperser parce que tu es dans le refuge, tu es protégé, tu es alerte, tu vois, tu es éclairé et tu es réveillé et la lumière de Dieu brille et la trompette sonne et t'avertit et te réveille lorsque tu t'es assoupi et je déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour chaque tentation, il pourvoit une voie pour en sortir et là où le péché abonde et les lionceaux abondent, la grâce de Dieu va surabonder et je serai protégé par le souffle de Dieu. Voulez-vous applaudir le souffle de Dieu avec moi? voudrais terminer avec, j'aimerais que vous disiez ceci en terminant. J'aimerais que vous disiez avec moi, jusqu'à mon dernier souffle, je vivrai sous le souffle de Dieu. Jusqu'à mon dernier souffle. Si je vis sous le souffle de Dieu, les lions sauts vont être dispersés. Je vais les vaincre. Ils vont marcher sous mes... Je vais fouler les lions sauts. Cette semaine, j'ai été invité. C'est vraiment un honneur. C'est quelque chose que vraiment touchant. J'aurais jamais... C'est un rêve que j'aurais pu rêver. J'ai été invité il y a quelques mois et j'ai accepté. C'est tellement de bénédiction d'aller. J'ai été invité par l'association Billy Graham à aller faire ce qu'ils appellent leur School of Evangelism. L'affiche va apparaître à l'écran. School of Evangelism de Billy Graham à travers le Canada et les États-Unis. C'est une série de conférences où l'organisation Billy Graham rassemble des centaines de pasteurs. Il y avait 300 à 400 pasteurs qui étaient là de partout à travers le Canada. Les États-Unis aussi, il y avait 6 États représentés. Ils m'ont invité à aller, j'ai prêché 3 fois, m'ont invité à aller communiquer. Et maintenant, il y a une série de conférences comme ça où on va aller à différents endroits où ce que des centaines viennent. Et puis, une prochaine conférence, on m'a dit qu'il va y avoir 1000 pasteurs qui sont là. Et je t'ai invité à aller m'adresser à eux. Et d'être associé avec le ministère de Billy Graham est un grand honneur. C'est un homme que nous estimons tellement. Et pour tous les jeunes chrétiens qui sont ici, vous ne savez peut-être pas, mais Billy Graham, c'est 60, 70 ans de ministère. Puis il y a une chose qui me fait toujours sourire et qui me stimule tellement, c'est qu'il a commencé son ministère. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran, on va la voir la prochaine. Et il a commencé, 3 hommes ont commencé un ministère, Billy Graham, avec George Beverly Shea et Cliff Burrows. Et les 3 étaient 3 jeunes dans l'œuvre, dans la vingtaine. Puis ils ont fait 60, 70 ans de ministère ensemble. Les 2 chantaient et Billy, lui, un conduisait la louange, l'autre chantait et Billy Graham prêchait. Et c'est assez, ça nous met un sourire parce qu'aujourd'hui, Billy Graham a 90 ans. Cliff Burrows, c'est le flow de la gang, il a 86, 86 ans. Et George Beverly Shea a 100 ans et 6 mois. Et il continue. Et George Beverly Shea, si vous l'invitez, il vient chanter. Il vient chanter, il chante encore. Il arrive et il chante. Il a 100 ans et 6 mois. Si vous avez 80, il vous reste 20 ans à chanter encore. Est-ce que vous me suivez? Dans 3 ans, je vais arriver à la moitié de ma vie. C'est merveilleux. Et ces 3 hommes-là, je veux le dire sans diminuer ou abaisser qui que ce soit, mais il y a des moments où il faut juste dire, parler cœur à cœur. Ce qui est magnifique de ces hommes, pour prendre les mots de Job, c'est que dans la crainte de Dieu, l'intégrité de leur cœur, ils ont vécu sous le souffle de Dieu et n'ont jamais succombé au lionceau. Ils ont gardé un ministère droit, intègre jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui encore, puis maintenant, de génération en génération, des milliers sont inspirés par Dieu. Dans cette époque où tellement de vedettes chrétiennes succombent. La semaine prochaine, je vais être au Colorado, dans la ville, où un des pasteurs des plus grandes églises des États-Unis a chuté dans une chute morale tellement abominable que maintenant, passe la seule fois que vous pouvez le voir, si vous allez le voir périodiquement à Oprah Winfrey en train de raconter toutes ses déviations. À cette époque de honte, où on penche la tête avec honte et où les lionceaux dévorent tellement, je rends grâce au Seigneur pour des... C'est toujours ceux qui ont été dévorés qui ont la publicité. Je veux rendre gloire à Dieu pour des milliers et milliers et milliers d'ouvriers et d'hommes et de femmes et de chrétiens de par le monde qui ont compris que si je vis ma vie dans le refuge et si je vis ma vie sous le souffle de Dieu, le lionceau n'aura pas d'emprise sur moi et il ne trouvera pas de moi sa proie. Vous pouvez vous dire amen. Lorsque j'ai vu ces hommes, j'aimerais demander qu'on remette la photo. Lorsque je vois ces hommes, j'aurais voulu faire ça pour ce matin, puis c'est pas possible de le faire, mais vous savez ces photos où est-ce qu'ils prennent une photo de toi, puis l'Internet, avec Photoshop et tout ça, ils projettent dans l'avenir ce qu'on va avoir l'air dans 20, 30, 40 ans. Vous avez vu des photos comme ça, voici ce que tu as l'air, puis voici ce que tu auras l'air dans 40 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. J'aurais voulu ce matin, je ne sais pas si ça aurait été possible, mais j'aurais voulu ce matin avoir une photo de moi, Pasteur Luc, Pasteur Jocelyn, toute l'équipe Pasteur Marc, toute la gang, et une photo de vous. Avec le futur. Il y a beaucoup de dames qui sont ici qui disent « Je ne veux pas voir ce que je vais avoir l'air dans 10, 20, 30 et 40 ans. » Mais simplement cette image que comme ces 3 hommes-là aujourd'hui qui sont à l'automne de leur vie, ont marché leur vie sous le souffle de Dieu. Et alors qu'ils étaient sous le souffle de Dieu, le lionceau n'a pas eu d'emprise sur eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça résonne en vous de dire « Seigneur, je veux vivre sur le souffle de Dieu jusqu'à mon dernier souffle et je marcherai sur le lionceau dans le nom. » Donnez-lui votre dernier applaudissement d'avant-midi. Et lèvons-nous ensemble en sa présence, si vous voulez bien. J'ai... J'ai demandé si c'était la première réunion. Je vous demande une faveur. On ne demande pas une faveur à chaque semaine, mais ce matin, j'ai une faveur à vous demander. Je vais vous demander de mettre votre Bible de côté. Et ce matin, j'aimerais demander tout de suite à toute l'Église au complet, si vous voulez bien. J'aimerais demander symboliquement, et moi je vais descendre ici parce que dans ce moment-là, il n'y a pas de pasteur et de brebis ou de... Nous sommes juste des enfants de Dieu, juste des chrétiens, des hommes et des femmes qui voudraient être des hommes et des femmes de Dieu. J'aimerais demander une faveur. Est-ce que je pourrais demander à toutes, en cette semaine du 16e anniversaire, est-ce que je peux demander à toute l'Église de sortir de vos places et de vous avancer ici à l'avant? Est-ce que je peux vous demander tout de suite de commencer à venir juste pour dire, Seigneur, on va se retrouver ensemble les coudes serrés dans ta présence. Et après 16 ans, nous voici. Et jusqu'à notre dernier souffle, nous voulons vivre notre vie sous le souffle de Dieu. J'aimerais vous demander de vous approcher très, très proche pour faire la place à tous ceux qui vont venir à l'arrière. De vous approcher tout proche. Une fois que vous arrivez, j'aimerais demander à la jeunesse de venir et aux jeunes et aux hommes et aux femmes et aux célibataires et aux gens mariés et aux parents et aux grands-parents et aux leaders et aux nouveaux. Voulez-vous vous approcher? Une fois que vous arrivez ici à l'avant, voulez-vous commencer à parler à Dieu? Voulez-vous commencer à dire au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre ma vie dans ton refuge. » Et voulez-vous laisser l'Esprit de Dieu vous diriger? Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut vous montrer un lionceau. Peut-être qu'il l'a fait déjà pendant toute la prédication. Quelque chose qui doit être arrêté. Quelque chose, un avertissement, un éveil, un avertissement. Dieu avec amour qui souligne, qui met le doigt sur un lionceau en ce moment. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on s'approche, tendre nos cœurs vers le Seigneur? Et est-ce qu'on peut juste commencer à dire ça, remplir ce lieu de prière et dire, « Seigneur, à mon refuge, à mon Dieu, je veux dire, personne ne peut m'aimer comme toi. À mon refuge. »
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.